franceinter.fr.
France Inter, il est 8h30. La revue presse de Stéphane Leneuf, c'est à vous Stéphane.
Et c'est donc parti pour 6 semaines à vivre en terre d'Ovalie. La Coupe du Monde de rugby est lancée, 20 pays, 13 stades, 48 matchs. Coup d'envoi hier soir du match d'ouverture Angleterre-Fidji avec une première victoire des Anglais, 35-11. Et une question ce matin pour les Français, doit-on enfin y croire? Se demande Olivier François de Le Parisien. Les Bleus se sont donné comme objectif de décrocher pour la première fois le titre. La France, seule grande nation du rugby à n'avoir jamais été championne du monde. Le sélectionneur Philippe Saint-André, beaucoup critiqué, veut convaincre dès ce soir contre l'Italie. Alors comme le titre l'équipe, à l'attaque, coup d'envoi à 21h.
Le rugby avec ses stars, mais aussi avec ses hommes de l'ombre.
Oui, ces hommes que l'on voit pourtant autant que les joueurs sur le terrain. Je veux bien sûr parler des arbitres. Dans l'Express, portrait de Jérôme Garcès. Il est l'un de ces hommes, de ces 4 arbitres français sélectionnés pour le mondial. Il est considéré comme l'un des tout meilleurs au monde. Or, devenir arbitre principal à ce niveau, cela se mérite, explique Pascal Sceaux dans l'Express. Il faut d'abord une condition physique irréprochable. Les arbitres sont donc suivis comme les joueurs en stage de mise en forme avec travail physique, séance de vidéo et accompagnement individualisé. Mais ce n'est pas tout, car une fois la compétition lancée, ils sont étroitement surveillés par le comité de sélection qui les a désignés. Ce comité supervise tous leurs matchs. Un rapport individuel de performance est rédigé au coup de sifflet final en fonction de 5 critères. Le jeu déloyal, la mêlée, les phases de plaquage, le hors-jeu, la touche, le maul. Les arbitres sont alors notés, ce qui permet de sélectionner les meilleurs, ceux qui pourront arbitrer les quarts, les demi, voire la finale. C'est en quelque sorte une compétition dans la compétition. Alors Jérôme Garcès explique que pour éviter le stress du résultat, eh bien, il est dans le même état d'esprit que les joueurs. Il ne pense qu'au match à venir. Il prend les rencontres les unes après les autres avec le même objectif, aller lui aussi en finale. Avec tout de même un souci bien embarrassant, s'il était retenu comme arbitre de la finale, cela voudrait dire que la France aurait été éliminée. Un terrible dilemme que Jérôme Garcès assume totalement. Je vais quand même supporter la France. Elle se distingue souvent dans cette compétition. Et je suis d'abord français, explique-t-il. Rendez-vous donc le 31 octobre.
Le rugby est également devenu une terre de pouvoir.
Oui, il y a le sport, mais aussi le business, les affaires, les réseaux, la politique. Et depuis qu'il s'est professionnalisé, eh bien, le rugby n'échappe pas au phénomène. Certes, l'Ovalie n'est pas encore au niveau du football, mais son aura, explique Olivier Joly dans le magazine M, son aura va bien au-delà des stades, du sport au business à la politique. La liste est en effet longue de ceux qui ont une fois les crampons raccrochés, eh bien sont devenus des hommes d'influence. Exemple Jean Gachassin, ancien international devenu président de la Fédération française de tennis. Philippe Bernard Tsall, héros de la demi-finale de la Coupe du Monde 99 contre les All Blacks, devenu président de la Fédération française de handball, ou encore bien sûr l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, Bernard Laporte, devenu ministre des Sports de Nicolas Sarkozy. Rugby et business, on appelle cela le rugby ziziness. Pour se rencontrer, il faut bien sûr des lieux conviviaux et chics. Une fois par mois, c'est dans les salons du Bristol à Paris que se tiennent les soirées entreprise et rugby. On y croise les anciennes et les actuelles gloires des stades, mais aussi parmi les plus grands patrons français. Serge Simon, ancien international, explique ainsi qu'il y a une logique pour que ces deux univers se rapprochent. Ce sport représente une forme d'idéal aux yeux des patrons. Il met la diversité des compétences et des origines au service d'un projet commun. Et du coup, ajoute Franck Ménel, ex-demi d'ouverture du 15 de France, fondateur d'une célèbre marque de vêtements, les décideurs savent utiliser le rugby comme moyen de communication. Et d'une manière ironique et amusée, Franck Ménel ajoute « Il n'y en a pas un qui oublie d'écrire sur son CV qu'il a joué au rugby, même si c'est 2 matchs dans sa vie. »
Loin du rugby, aussi loin du business, à lire cette interview portrait dans Le Monde, celui de Pascal Ondars.
Oui, vice-champion du monde en 1987, lors de la première édition de la Coupe du Monde, ancien pilier de l'équipe de France de rugby. À l'époque, les Britanniques l'avaient classé parmi les 10 Français les plus effrayants de l'histoire du rugby. C'est dire. Aujourd'hui, Pascal Ondars est hôtelier à Bayonne. Il a rangé les crampons. À travers son portrait, Adrien Pécou du Monde Monde nous remémore celui qui incarnait à l'époque la force basque de l'équipe de France. Un temps où il fallait, crie Adrien Pécou, bien plus qu'un simple goût du bourre-pif pour aller jusqu'en finale de la Coupe du Monde. Un temps, précise également Pascal Ondars, où on avait pris un mois de congé pour partir à l'autre bout du monde et où on ne gagnait pas un rond. Bref, le temps du rugby purement amateur, du rugby des villages. Pas de regret de ce bon vieux temps de la part de Pascal Ondars, qui continue d'aller le dimanche au stade de Bayonne, mais tout de même une petite pointe d'amertume. Au coup de sifflet final, je suis déjà dans la voiture, ce ne sont plus les supporters qui viennent au match, mais des clients. L'ambiance rugby, c'est terminé, les gens viennent pour le business, ils n'y connaissent rien.
Éducation nationale, cette fois, où l'on reparle d'une réforme du bulletin de notes à l'école.
Oui, vous avez aimé la polémique sur les rythmes scolaires, vous avez aimé la polémique sur les programmes. Eh bien, peut-être que vous aimerez la polémique sur les futurs bulletins de notes. C'est le Parisien qui révèle ce matin le contenu du nouveau bulletin scolaire. Il est en préparation au ministère, avec toujours la même question qui fâche, note ou pas note. Hier, Najat Vallaud-Belkacem l'a répété, il n'a jamais été question de revoir les notations telles qu'elles existent aujourd'hui. Certes, la note va bien rester, explique Véronique Maribon-Ferré dans Le Parisien, mais le système d'évaluation va lui bel et bien changer. Deux systèmes vont se superposer, une première tranche de notes traditionnelle basée sur les programmes et un deuxième niveau apparaîtra à la fin de chaque cycle. Il rendra compte des acquis du socle commun de connaissances. Ce seront 8 ensemble avec une échelle d'évaluation de 1 à 5 représentant tout ce que l'élève doit avoir acquis à la fin de sa scolarité obligatoire. Un bulletin scolaire, tenez-vous bien, qui comportera 3 voire 4 pages. Cela permettra d'éclairer les parents sur la situation de leurs enfants, explique la ministre. Personne ne va s'y retrouver, lui répond Valérie Marty, la présidente de la PEP. Un double système, ça ne marchera pas, renchérit le secrétaire général du SNAL, que le deuxième syndicat des profs du secondaire. Version définitive attendue le 30 septembre.
Et en bref, à lire également dans la presse ce matin, Stéphane.
Jour de grogne pour les maires. Aujourd'hui, ils vont à la rencontre de leurs administrés pour les alerter sur les baisses des dotations de l'État aux collectivités locales. Et le Figaro nous révèle que les maires continuent d'avoir la main lourde quand il s'agit de ponctionner dans les portefeuilles. 37% des villes de plus de 100 000 habitants ont augmenté leurs impôts de près de 2%. Les élus qui continuent de recourir au levier fiscal plutôt qu'aux baisses des dépenses de fonctionnement, explique le Figaro. En rugby, on y revient, on appelle cela un recadrage après débordement. Emmanuel Macron avait jugé que le statut des fonctionnaires n'était plus justifiable. Recadrage hier soir en bonne et due forme de François Hollande. Au cours d'une remise de décoration, le président de la République s'est dit attaché à ce statut. Les élections législatives en Grèce sont aussi à la une. Tsipras, ça passe ou ça casse, titre Libération. Les sondages donnent Syriza et la Nouvelle Démocratie au coude à coude. D'ores et déjà, l'homme de cette campagne aurait été Evangelos Meimarakis. Il a réveillé les ardeurs de la droite et va peut-être demain soir lui offrir la victoire. Enfin, on termine avec ce dossier consacré cette semaine par Marianne à la malbouffe. Un classique, mais c'est toujours intéressant de prendre des conseils pour s'émanciper de la grande distribution, de découvrir et redécouvrir ces aliments qui nous font du bien et surtout de rappeler que le sucre en excès, ce n'est pas bon pour la santé. L'édulcoration du monde conduit à l'infantilisation des masses, explique très sérieusement Marianne. Des masses qui seraient soumises à la plus primaire des addictions, celle du sucre. Alors ce matin, Patricia, un petit conseil, on planque les chouquettes et les meringues trop sucrées.
On planque, merci Stéphane Leneuf.